un âne de nature qui ne sait lire son écriture. C'est ce que nous dit ce proverbe français. L'écriture, un sujet qui revient régulièrement sur la table, selon les spécialistes, avec évidemment les nouveaux outils technologiques, les claviers et autres assistants vocaux, de plus en plus nombreux et élaborés. Va-t-on vers la fin de l'écriture manuelle, notamment à l'école? Eh bien, un sondage réalisé l'année dernière aux États-Unis a montré que 15% des Américains n'ont jamais rédigé un courrier à la main. Par ailleurs, 37% n'ont pas envoyé de lettres manuscrites depuis plus de 5 ans. Et 50% n'en ont pas reçu personnellement sur la même durée. Alors voilà la question que nous posons ce matin. Chers auditeurs, pourquoi est-ce si important? Tout simplement d'apprendre à écrire à la main, Marianne Jonquet de Sons, eh bien ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir mes trois invités du jour, qui sont pour commencer Néla Chidiac. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors vous êtes docteur en psychopathologie, psychologue à Sainte-Anne, vous avez fondé des ateliers d'écriture thérapeutique, vous enseignez dans différentes universités nationales et à l'étranger autour de l'écriture et du trauma, c'est tout à fait intéressant. Alors vous êtes EMHS, External Mental Health Specialist, c'est-à-dire en français spécialiste du soin,
comment est-ce qu'on dit ça en français ? Expert de santé mentale.
Tout simplement, bon, on aurait pu le dire comme ça, pour l'ONU, ancien expert près du tribunal de grande instance de Paris, et donc vous venez de publier cet ouvrage, Les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots, un atelier d'écriture d'édition Odile Jacob, je me suis trompée, je crois que c'est Les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots, tout simplement, sous-titré Un atelier d'écriture. Et il y a un chapitre donc consacré à notre affaire du jour sur l'écriture à la main. Et on y apprend plein de choses. Florence de Montesquieu est également avec vous, avec nous. Florence, oui, bonjour, avec vos lunettes, je ne vous reconnaissais pas. Soudain, j'avais où est-elle passée dans ce studio. Bonjour Florence.
Bonjour,
vous êtes graphothérapeute, rééducatrice de l'écriture. Vous exercez en cabinet libéral depuis plus de 15 ans à Paris. Alors vous, surtout auprès d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes, hein, vous êtes vraiment spécialisée. Chargée d'enseignement au centre de formation universitaire en orthophonie de Poitiers et au sein de l'association Graphidis, qui forme au métier de graphothérapeute rééducateur de l'écriture. Je ne sais pas si tout au long de l'émission je vais expliquer tout ça, mais là on est au début. Une formation démarre d'ailleurs en janvier à Paris, à Aix-en-Provence. Alors vous êtes la co-auteure d'un ouvrage professionnel sur la rééducation de l'écriture de l'enfant et de l'adolescent, ce qui veut dire qu'il y a un chantier en la matière. Pratique de la graphothérapie aux éditions Elsevier Masson, ça dit comme ça ou pas ? Pardonnez-moi, mon ignorance. Bon. D'ailleurs, une prochaine édition est en préparation. Et puis enfin, Emmanuel Rivoire. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors, également graphothérapeute, vous intervenez, vous, pour le coup, dans la rééducation, alors certes, de l'écriture des enfants, des adolescents, mais aussi des adultes.
Aussi, oui.
Vous travaillez en lien, je crois, avec des médecins, des psychologues, des orthophonistes, des enseignants, etc. Donc, plutôt en milieu institutions, vous êtes en lien avec les institutions, institutionnelles, médicales en général, psychosociales.
Comme Florence, où j'accueille aussi.
Et dans l'entreprise.
Alors, plus en libéral, où j'accueille dans mon cabinet les adultes, les enfants et adolescents, mais aussi pas mal d'adultes aussi qui arrivent avec des problématiques avec leur écriture.
Alors, apparemment, un sujet hautement d'actualité, parce que il y a quelque chose qui se passe, je m'adresse à vous, Néla Chidiac, pour commencer l'émission. Dans le cerveau, commençons par le plus grave au fond, parce que quel est le problème en soi d'écrire, bon bah voilà, c'est l'évolution de la technologie, on prend ses cours en tapotant sur un clavier, mais au fond, que se passe-t-il dans un cerveau de si différent que cela, quand on prend des notes avec un clavier, ou quand on écrit à la main?
Alors il y a des études américaines, avec leurs statistiques qui sont très importantes,
ouais.
Qui montrent que lorsque on écrit à la main, oui. Il y a une implication du cerveau qui vient se prolonger à travers les mains, à travers la main, à travers les doigts, et qui fait qu'il y a une implication quelque part neuronale, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais qui montre bien que ceux qui écrivent à la main, ils ont fait des études pendant les examens, avant les examens et après les examens,
ouais.
On retient mieux, la mémoire est plus opérationnelle chez les étudiants qui ont écrit à la main que ceux qui ont écrit sur le clavier.
Et on ne sait pas pourquoi, parce que vous expliquez. Alors, vous avez des pistes de réflexion dans votre livre. Quand
alors,
même,
les pistes de réflexion dans mon livre, merci infiniment de le citer, sont plus des réflexions du lien symbolique que moi j'effectue, si vous voulez, entre cette théorie entre Anaxagore et Socrate, ce grand débat qui a traversé l'histoire de la philosophie, qui faisait dire que Anaxagore disait que l'homme est intelligent parce qu'il a l'outil main, donc la main est un outil, et Socrate disait non, l'homme est intelligent et il utilise sa main. Donc c'est ce fameux grand débat, mais en tout état de cause, c'est la main qui est le prolongement de la pensée. Et pour moi, symboliquement, c'est très important en atelier d'écriture thérapeutique, ce sont des ateliers d'écriture à visée ouais. thérapeutique, qu'il y ait cette notion de lien qui se fait entre pensée, main, ouais. cerveau, main, et au moment de l'écriture, et là je rejoins mes collègues, de pouvoir tisser un lien, c'est-à-dire on fait un lien entre une lettre et une autre. On ne tape
absolument.
Pas. Et donc, c'est cette notion de liaison qui, moi, m'intéresse symboliquement. Surtout comme je travaille dans le trauma. Le trauma, en gros, c'est une fracture de l'espace et du temps. Et l'écriture va permettre le tissage, entre autres, bien ouais. évidemment, de cet espace et de ce temps. Donc, la notion de l'implication de la main est très importante.
Chez les graphothérapeutes, allons-y. Alors là, on est au cœur de notre sujet, pour le coup. Vous y bossez, sur cette fameuse écriture, même si elle disparaît, quand on vient vous voir aujourd'hui, c'est pourquoi ? Parce qu'à l'école, maintenant, de plus en plus tôt, alors pas dans toutes les écoles, Dieu merci, on écrit de plus en plus sur les claviers.
Ouais.
Qu'est-ce
alors,
qu'on voit ?
Je voudrais d'abord faire le lien
Florence
avec ce que
Montesquieu.
Disait Neila. D'abord, cette étude, elle est aussi intéressante sur le plan instrumental, parce qu'en fait, ce qui a été montré dans cette étude, c'est que la main ne va pas aussi vite que le clavier, et que, en fait...
Sauf les médecins.
Ouais. Et donc, en fait, on est obligé de traiter l'information orale. Et en fait, ce traitement de l'information orale qui oblige à synthétiser ce qui est dit, qui oblige à condenser ce qui est dit, participe à la, à la mémorisation de l'information.
Et ça,
oui, alors là, on est dans cette étude-là, on est dans un cas de prise de notes.
Ouais.
Et donc, ça participe à la mémorisation à court terme, mm-hmm. mais aussi à moyen-long terme. Et cette étude, elle était sur une population de jeunes adultes, de jeunes adultes, et elle était vraiment intéressante pour aussi pour motiver nos jeunes, pour leur expliquer qu'il reste un véritable intérêt à utiliser papier-crayon, même à l'adolescence ou quand on rentre dans les études supérieures. Alors, pour répondre à votre question, Marie-Ange, nous, les enfants qu'on reçoit, ils viennent nous voir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une écriture... d'abord, ils ont du mal à entrer dans l'apprentissage de l'écriture. Donc, ils ont du mal à se saisir du sens de formation des lettres. Ils ont du mal à rentrer dans le code d'écriture. Naila parlait de la liaison. Ils ont beaucoup de mal avec la liaison. Ils ont du mal avec les proportions. Tout ce qui va participer à la qualité, à la lisibilité de l'écriture. L'écriture, c'est un code. Ce n'est qu'un monde de règles. Si vous voulez ne pas avoir d'accident de voiture, vous respectez le code de la route que tout le monde partage.
Ouais.
L'écriture, si vous voulez être compris des autres, il faut partager un code pour pouvoir être lu par les autres. Donc, il y a tous ceux qui ne sont pas lisibles, il y a tous ceux qui sont trop lents, trop rapides, on a ce versant-là, tous ceux qui ont des douleurs quand ils écrivent, qui n'aiment pas écrire, et puis tous ceux pour lesquels aussi, en fait, l'écriture, les difficultés d'écriture sont en fait un symptôme d'autre chose.
C'est ça qui m'intéresse, évidemment, ce début d'émission. De quoi ? Un symptôme de quoi ? La pauvre Emmanuelle Rivoin qui se tape la fin de la question au bout d'un premier tour de table. Peut-être pour rebondir d'abord à ce qui a été dit, du coup.
Oui, et puis... oui. En fait, je rejoins effectivement sur l'écriture sur ordinateur qui est beaucoup plus rapide, où l'étudiant, l'adulte, va écrire tout ce qu'on lui dit sans forcément réfléchir. L'écriture pose la pensée, amène une réflexion. Et lorsque l'on écrit ses cours à l'écrit, forcément, on est obligé de d'amener une synthèse de ce qui a été abordé. Une synthèse, on ne peut pas tout écrire. Donc déjà, il y a une réflexion qui est menée dans le cerveau et vous mémorisez beaucoup plus vite. Vous rentrez chez vous, déjà, vous avez peut-être pas la moitié du cours, mais en tout cas, une bonne partie du cours. Donc, effectivement, cette trace aussi, c'est une mémoire visuelle qui est importante, notamment lorsque, dans le cas d'apprentissage, la mémoire visuel et le langage, la lecture, l'interaction de la lecture et d'écriture sont très importants. Après, des symptômes, d'autres symptômes, effectivement, vous avez des enfants qui sont en souffrance par rapport à l'écriture. Et je parlais tout à l'heure à Neila, c'est non seulement par rapport à l'écriture, mais au regard de l'autre sur leur écriture. Le regard des adultes, de l'école, de le monde de l'adulte, des parents. Ton écriture, ça va pas, elle est pas belle. C'est pas que, ok, elle peut avoir des problèmes de lisibilité, d'efficacité. Ton écriture n'est pas belle, faut la changer. Ça, c'est douloureux. Parce que quand même, l'écriture, c'est une projection de soi. On se projette dans l'écriture. Donc, quand on reçoit les enfants, même les adultes, déjà un peu dédramatiser les choses, regarder ce qui ne va pas dans l'écriture.
Parce qu'on vient vous voir, vous, excusez-moi de vous couper deux secondes, les graphothérapeutes et les graphologues, on vient vous voir aussi pour des problèmes tout simplement d'écriture, de rééducation.
Rééducation, comme disait Florence, ramener une lisibilité, une efficacité, une certaine fluidité dans l'écriture, de façon à être en lien avec l'école, au niveau attendu, et à la vitesse aussi de traitement attendu, qui n'est pas toujours facile pour les enfants, notamment en CE1. Certains sont en difficulté avec la lecture, on ne va pas leur demander d'écrire vite s'ils ne savent pas encore bien lire.
Ouais, il doit y avoir des différences colossales, en plus de plus en plus avec ces outils technologiques, s'ils apparaissent de plus en plus tôt. J'ai envie de vous poser les questions essentielles pour commencer l'émission, si vous le permettez, Neila Chidiac. Au fond, comment seront, au fond, les enfants qui seront quasiment nés avec un écran sous le nez et un clavier ? Qu'est-ce qu'ils vont rater par rapport à nous, vieux dinosaures que nous sommes, pardonnez-moi, mais je m'inclus dedans, parce qu'on a tous appris avec un stylo et un papier, et avec des lignes où il fallait écrire droit, rentrer dans les petites, dans les interlignes pour que les lettres, les A, les U, etc. ne dépassent pas, enfin bon bref. Qu'est-ce que ça va donner, ça, si jamais on apprenait complètement toute l'écriture avec des écrans et des claviers ?
Merci Marie-Ange pour cette question qui m'inquiète, mais je me dis en tant que diplodocus, parce que je me définis aussi comme un dinosaure, sauf que j'ai choisi lequel, s'il vous plaît, diplodocus. Donc en tant que diplodocus, parce que et mes étudiants et mes patients sont effarés lorsque je sors mon filofax, parce que je prends mes agendas avec mes rendez-vous avec mon filofax.
Extra.
Et même le mot filofax, les jeunes patients ne savent pas ce que c'est. Donc je ne vous dis pas, parfois je me demande si leur traumatisme n'est pas de me voir écrire à la main. Donc c'est très inquiétant. Alors bien sûr, ne nous alarmons pas. Je pense que j'aime beaucoup tout ce qui est étymologie et tout ce qui est histoire. D'accord. Donc l'étymologie du mot écrire, c'est inciser, c'est gratter. C'est-à-dire prendre une tablette et de laisser une trace, cette notion de trace, où les sociologues, le roi Gourand, disait que l'homme, en fait, est le seul à laisser une trace rectiligne en labourant la terre. L'agriculteur, sa trace, c'est labourer la terre. L'être humain, qui est le seul, en fait, animal qui raconte une histoire. Nous sommes les seuls animaux qui nous mettons en scène.
Et comme par hasard, à écrire. Hein.
Et à
comme
écrire, par hasard. Exactement, puisque ça va ensemble. On raconte une histoire, on l'écrit, d'accord ? Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de ce que j'aime appeler l'électro-écrigramme. C'est-à-dire qu'on voit dans notre écriture comme un sismographe de notre émotion.
C'est vrai qu'il y a des jours, alors ça, vous nous expliquerons,
les graphologues seront mieux l'expliquer.
Moi, il y a des jours où j'écris pas du tout de la même façon, c'est très étrange. On prend le temps de faire les lettres et d'autres moments, on écrit comme des cochons. Bah, comme ce matin, j'écris comme un cochon. Je ne sais pas pourquoi. Mais là,
donc, continuez. Dans des milliers d'années ou des centaines d'années, quand il n'y aura plus ces traces, d'ailleurs, je regarde ici, ce studio, il y a des feuilles écrites et puis il y a des feuilles tapées au clavier. Voilà. La feuille écrite, c'est comme une identité, c'est comme une empreinte presque digitale de tout un chacun. Et là, il y aura comme presque une identité commune à tous et il n'y aura plus d'individuation, ce qui est quelque part un petit peu
ça
dommage.
Ça va très loin, cette affaire.
Oui, ça peut aller très très,
ça peut aller très loin.
Alors, je ne suis pas alarmiste, loin de là. L'homme a une capacité d'adaptation qui est exceptionnelle, donc je ne suis pas très inquiète. Je trouve ça dommage. Personnellement, je trouve ça vraiment dommage. Je me permets une parenthèse. Il y a la BNF qui vient de réouvrir en septembre, la Bibliothèque nationale de France, où il y a le fameux caillou où on trouve le premier acte. Parce que finalement, quand vous mettez votre signature ou vous écrivez, symboliquement, la chose peut vous appartenir. Une terre vous appartient, un tableau vous appartient.
C'est ce que vous dites dans votre livre, la terre de l'agriculteur.
Un symbole très important que l'écriture, que la signature. Même maintenant, sur l'ordinateur, vous avez des signatures électroniques.
D'accord.
Donc, où va aller cette notion d'identité et de trace ? À voir.
Et quel impact au pluriel, quels impacts sur le cerveau?
Et si, juste pour faire un lien, en préparant l'émission hier, je parcourais un petit peu différentes choses et je me disais, quand on regarde toutes les lettres qui ont été envoyées pendant la Première Guerre mondiale, toutes ces lettres manuscrites qui circulent encore dans les familles et qui font la mémoire des familles, ben c'est pas du tout la même chose que de recevoir un texto ou un mail.
Je cite les manuscrits de l'extrême, cette extraordinaire exposition qui a eu lieu l'année dernière. Je le revois aussi avec certains de mes patients. Ouais. Dans les moments extrêmes, ils ont besoin d'écrire. Mais à la main, ils ne vont pas prendre. D'ailleurs, vous n'allez pas trouver un ordinateur quand vous êtes pris en otage au fin fond du monde. Mais par contre, tracer sur un mur, sur une terre, sur une écorce d'arbre, combien de traces on va trouver? Donc la notion de trace est quand même, j'ai envie de dire, et philosophique et anthropologique. Donc que va-t-elle devenir? Peut-être que la trace sera l'écran, le clavier, je ne sais pas.
J'ai envie de poser la même question. Côté graphologue, ça donne quoi?
Graphothérapie.
Pardonnez-moi Florence.
Tout va bien.
Alors, pour vous, quel sera l'impact? Même question.
Alors, en fait, on est assez partagé. Parce qu'il y a quand même des... Il ne faut pas jeter tout ce qui est numérique. Il y a quand même des apports. Et même nous, en rééducation, il peut y avoir des bénéfices à utiliser. Là, il y a des programmes, des applications qui se développent, qui peuvent participer à l'apprentissage de l'écriture. Moi, j'ai travaillé depuis 2 ans avec... l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, sur le développement d'une application qui permet d'évaluer l'écriture et qui développe aussi, qui propose en parallèle des exercices de remédiation. Donc tout n'est pas à jeter. Ceci étant dit, ce qui est compliqué pour l'instant, c'est que la surface de l'écran, pour ceux qui écrivent comme moi, de temps en temps aussi avec un stylet sur une tablette, la surface de l'écran est très très lisse. On n'a pas de résistance comme on peut avoir sur le papier. Et puis en fait, vous verrez
souvent la banque, le premier contact avec ce
le notaire, la banque, et en fait, on s'aperçoit que l'écriture sur l'écran qui glisse n'est pas du tout la même.
Il n'y a aucune inscription, quoi. C'est ça que je veux dire.
Ça dérape. On n'a pas du tout le même contrôle et le contrôle visuel est obligé d'être beaucoup plus important que pour pouvoir un petit peu contrôler cette trace. Donc on a cette incidence. Après, dans l'apprentissage, il y a quand même énormément d'études aussi qui montrent les bénéfices de l'apprentissage manuscrite par rapport au clavier. Donc même si certains États américains, pendant un certain temps, ont voulu... il y a eu 45 États qui ont abandonné l'apprentissage de l'écriture cursive il y a quelques années, maintenant ça doit faire 6-7 ans. Il y en a 16 qui sont déjà revenus en arrière.
Donc c'est qu'il y avait
une raison. Bon, il y a un véritable bénéfice à utiliser l'écriture manuscrite pour la reconnaissance des lettres. Différencier un B et un D script par rapport à un B et un
Pourquoi
D cursif.
Pour quelle raison?
Déjà parce que le geste n'est pas le même. Et le BD, on peut vraiment avoir des confusions d'orientation spatiale.
C'est vrai que là, sur un écran, c'est quasiment la même chose, quoi.
Voilà. Finalement, là, on peut avoir cette difficulté. Là. Donc, on peut aussi avoir des difficultés dans la mémorisation de la forme et du sens de tracé des lettres. Et je pourrais prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Quand vous êtes chez vous, vous rentrez de vacances, parfois vous ne vous souvenez plus du code de l'immeuble.
Ouais.
Et vous vous souvenez du geste, en fait, que vous avez fait.
C'est juste,
si on veut faire une application au Japon, il y a une méthode d'apprentissage des kanji japonais qui s'appelle le Kusho. Et en fait, c'est vraiment un système d'apprentissage de l'écriture dans l'air. Parce que les kanji, il y a vraiment un ordre, une répétition. Et si tous les petits enfants faisaient ça sur du papier, d'abord c'est compliqué, et puis ce serait très consommateur de papier.
Ça, c'est une bonne piste pour les parents qui nous écoutent ce matin, qui sont un peu inquiets. Pour leur petit bout en maternelle avec des écrans.
On peut commencer à écrire dans l'air, en fait. On peut commencer à tracer, à avoir un point de départ, un sens de rotation, à écrire dans l'air.
Je vais me faire gronder, mesdames. Mm-hmm. Donc, tout de suite, page en couleur. On se retrouve juste après. À tout de suite.
Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
L'évangile du jour et son analyse m'aident à mieux comprendre les textes et à démarrer la journée sur un plan plus spirituel. De même, le dimanche matin, j'écoute avec intérêt le commentaire des textes du jour qui me permet de mieux vivre la messe.
Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
Vous habitez Paris et sa banlieue ? Vous avez un peu de temps libre pour accueillir au téléphone des personnes en grand besoin d'écoute ? Alors, devenez écoutant bénévole de SOS Chrétien à l'écoute. Formation assurée. Écrivez à SOS Chrétien à l'écoute, 22 rue d'Arcueil, 75 014 Paris, site internet soschrétienalécoute.fr ou par téléphone 01 45 35 55 56, 01 45 35 55 56, un numéro qui a du cœur.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. J'aimerais vous parler d'Habitat et Humanisme. Habitat et Humanisme est une association qui agit depuis 30 ans concrètement pour aider les personnes en difficulté à trouver un logement et à se réinsérer. Au passage, à l'heure d'hiver, Habitat et Humanisme lance l'opération L'Heure Solidaire et nous invite à donner une heure de notre temps ou de nos revenus pour les plus fragiles. Nous allons tous gagner une heure, et si nous la donnions aux plus démunis? Comme moi, si vous voulez agir, rendez-vous sur heure-solidaire.org. Merci.
En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
Ce matin, pourquoi est-il si important d'apprendre à écrire à la main, tout simplement? Alors peut-être avez-vous lu ce fameux dossier paru dans Le Parisien il y a quelques temps, la fin de l'écriture manuelle, notamment à l'école, c'était la question que se posait le journal il y a quelques jours de cela, étant donné que les chiffres sont quand même assez inquiétants, notamment aux États-Unis, sur la disparition progressive de l'écriture manuelle. J'ai l'impression qu'en France, on n'y est quand même pas encore tout à fait, du moins il y a encore un débat. Néla Chidiac est avec nous ce matin, elle qui vient de publier Les Bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots aux éditions Edith Jacob, elle qui est docteure en psychopathologie et psychologue à Sainte-Anne où elle a créé des ateliers d'écriture thérapeutique. Elle a travaillé notamment, elle s'est spécialisée dans le trauma, l'écriture thérapeutique suite à un trauma, quel qu'il soit d'ailleurs, et qu'on soit enfant, ado ou adulte. Hein. C'est bien ça, Néla?
Je ne vous ai pas demandé au début.
Hein.
Je ne prends que des adultes.
Ah non, que des adultes, pardonnez-moi.
Bien sûr, ça s'applique aux enfants et aux ados, mais ma consultation, c'est des adultes.
D'accord. Donc, écriture manuscrite, si vous nous rejoignez aujourd'hui, c'est très important de parler justement du geste de l'écriture, de tout ce qui se passe. Il faut réécouter le début, c'est important quand même. Florence de Montesquieu est également avec nous, présente, graphothérapeute, rééducatrice de l'écriture, qui exerce depuis 15 ans en libéral à Paris, auprès d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes. Elle a co-écrit un ouvrage professionnel sur la rééducation justement de l'écriture de l'enfant et de l'adolescent, la pratique de la graphothérapie aux éditions Elsevier Masson, et puis Emmanuel Rivoire, graphothérapeute également, qui intervient dans la rééducation aussi de l'écriture des enfants et des ados, mais aussi des adultes, et qui intervient, qui est en lien toujours avec les psys, les enseignants, les hôpitaux aussi, les entreprises aussi.
En tant que graphologue aussi.
C'est quoi la différence rapidement
La graphologie, hein. En fait, c'est une technique qui permet de se rapprocher au mieux de la personnalité.
Ah, pas graphothérapeute,
non ? Par l'écriture. L'écriture, d'accord, étant une projection de soi, les adultes viennent me voir avec leur écriture. Et
d'accord.
Je fais l'analyse, effectivement, de cette écriture.
Oui, on est d'accord.
La graphothérapie, ça reste la rééducation du geste graphique pour être lisible.
Ouais.
Classe,
ce que vous expliquiez tout à l'heure.
Voilà, ce qui est différent.
Mais Florence, vous faites un peu d'analyse, non quand
Non,
même
non, je ne fais pas du tout, je n'utilise pas du tout de technique de graphologie. Et c'était la discussion qu'on avait en aparté avant le début de l'émission.
Oui.
Pourquoi? Parce que je reçois une population souvent qui a des troubles d'apprentissage, qui a d'autres difficultés. Et donc, ces difficultés, c'est ce c'était à ça que je pensais quand on évoquait les symptômes. Que l'écriture peut être un symptôme d'autre chose. L'écriture peut être en difficulté chez un enfant qui a une dyslexie, qui a un trouble de l'attention, qui a des difficultés de motricité fine. Et je dirais à ce moment-là, faire une interprétation psychologique de l'écriture, ce serait pour le moins trompeur et risqué.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Est-ce qu'on pourrait le dire s'écrit clairement, est-ce qu'on pourrait le dire quand même comme ça? Parce que s'ils viennent se rééduquer, c'est que tout à coup, au fur et à mesure de la rééducation, mesdames, il y a quelque chose qui s'opère dans le cerveau et puis dans le corps, puisqu'on est complètement reliés. La preuve avec vous, Néla Chidiac, dans votre livre. Voilà.
Juste rajouter, oui. Je dirais aussi que ce sont aussi des enfants en devenir, en construction. Donc poser une
interprétation. Rien n'est fichu.
C'est-à-dire qu'ils vont bouger, ils vont évoluer. Donc faire une interprétation psychologique qui risquerait de les figer, c'est pour le moins pas adapté.
Non, rien n'est fichu, rien n'est figé. Parce qu'il faut vraiment dédramatiser en fait, le regard qu'on porte sur leur écriture. Donc travailler ensemble pour la rétablir, la rendre plus lisible. Mais rien n'est fichu.
Et de votre côté, Néla, est-ce qu'il y a des évolutions dans les ateliers d'écriture? Parce que j'imagine qu'il y a un suivi, même donc chez les adultes. Il y a une évolution de la... Comment est-ce qu'on appelle ça, la qualité, la forme de l'écriture? Comment est-ce qu'on dit là? La calligraphie? Calligraphie, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les défauts d'écriture, l'écriture qui évolue, au fond.
Alors, je vais être honnête, je ne regarde pas nécessairement l'évolution de leur forme d'écriture, parce que je ne suis pas formée pour ça.
D'accord.
Mais en revanche, ce que je note et qui est très important pour moi, c'est l'occupation de l'espace de la feuille. Donc j'ai observé que, par exemple, quand ils sont en accès de grande mélancolie, avant même que l'épisode mélancolique, donc de la grande dépression, n'arrive, l'occupation de l'espace de la feuille est très différente. Pareil, quand il y a un accès maniaque qui s'annonce,
ouais,
une grande agitation, l'occupation de la feuille est très très différente. Mais je ne me suis pas penchée à faire des études sur cela. En revanche, ce que je tiens à signaler quand bien même, c'est que dans un atelier d'écriture à visée thérapeutique, je vise la transformation. Une thérapie, c'est quoi? C'est le changement. Donc comme vous parlez d'évolution, moi je parlerai plus de changement, de transformation. Un patient pourrait aller mieux s'il y a une transformation et un changement. Et je le vise à travers la création, finalement. Parce que c'est quoi un atelier d'écriture? On va créer.
Ouais.
On va pas créer une œuvre, loin de là. D'ailleurs, il y a des ateliers d'écriture littéraire pour cela qui existent et qui foisonnent de plus en plus. D'ailleurs, il y en a partout et c'est formidable. Mais mon atelier d'écriture à visée thérapeutique ne vise pas le produit final. Ce qui nous intéresse, c'est le processus de création. Et ce processus de création, pour revenir à notre sujet du jour, se fait à la main. Parce que, comme dit René Char, les mots savent de nous ce que nous ne savons pas encore. Et on va pouvoir, à partir de la main et des doigts, créer un exemple. Quand je demande à un patient, on va faire un exercice inspiré de l'Oulipo, ouvroir littéraire potentiel, on va faire une greffe de mots. Eh bien, on va greffer à la main les mots. Et je vais pouvoir barrer, raturer. Combien de fois il y a un lapsus qui se fait par écrit? Il le barre, mais il me le lise.
Ouais.
Si c'était sur le clavier, il l'efface, ils vont l'oublier.
Absolument.
Et combien de séances sont parties dans un ailleurs grâce à ce fameux lapsus qui a été barré?
C'est intéressant ce que vous dites, Néla, parce que j'allais justement poser sur la table de ce studio le mot création. Au fond, c'est vrai que... on n'écrira jamais deux lettres de la même façon. Il y a un processus créatif, Florence de Montesquieu, qui s'opère aussi, qui est intéressant pour la rééducation du corps et du cerveau.
Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à l'adolescence, en fait, où on a des adolescents qui veulent se détacher du modèle pour affirmer leur identité. Et ça peut être fait de façon positive, donc ça va rester lisible, ça va être efficace, ils vont s'affirmer au travers de cette écriture. Et puis ça peut être fait parfois avec des mauvais choix de forme, qui sur une écriture qui à la base était tout à fait lisible, et bien ne devient plus, devient tout à coup non fonctionnelle. Et donc on a aussi ce type de demande.
J'avais pas qu'on pouvait faire empirer son écriture.
Oui, parce qu'en fait, comme à l'adolescence, vous avez besoin d'aller plus vite, vous avez besoin de suivre le rythme, ben certains jeunes modifient leur forme pour pouvoir suivre le rythme en classe. Et ça peut être fait de façon efficace ou non. Et donc, on a parfois des demandes qui viennent, mais qui ne répondent pas à un trouble initial, en fait. C'est juste un problème de mauvaise personnalisation. Donc ça, c'est une vraie demande. Et puis, rebondir sur le processus créatif, ce qui est sûr, c'est que l'écriture à la main, en fait, on a quand même plus de temps pour ciseler son mot, pour choisir son mot. Alors qu'au clavier, tac, tac, tac. Et en fait, c'est pareil, il y a des études qui montrent que, en fait, le vocabulaire, la syntaxe, la richesse de pensée, la créativité sont beaucoup plus fécondes avec une écriture à la main qu'avec une écriture tapuscrite.
Tapuscrite, alors. En plus, même ça, c'est pas beau.
Non, c'est pas beau.
Du coup, vous me faites penser que j'ai, avec la page en couleur de tout à l'heure, la page de publicité, j'ai oublié de vous poser la même question, Emmanuel Rivoire, autour du cerveau du futur, quoi. Les cerveaux de nos petits. Comment voyez-vous les choses de votre côté ? Vous voyez quand même certains, des enfants et des ados.
En fait, je voulais parler, moi, sur la mémoire du geste, oui, au niveau de l'écriture, qui aide à la fois à la lecture. Cette mémoire du geste, vous l'avez dans la formation de la lettre, vous avez la forme de la lettre, vous avez le son de la lettre qui est associé, et ensuite, vous avez le geste.
Et le
de
son,
la lettre. Le son. Le son, donc d'où l'importance de l'écriture avec la lecture.
Si avec vous, un crayon à papier,
oui, peut-être. Oui, crayon. Si demain, effectivement, tout se fait au clavier, vous n'avez plus cette association forme, son, mouvement. Vous avez juste la forme et hop, on appuie sur le clavier.
C'est juste. Donc, un A se fait aussi vite
voilà,
qu'un L,
c'est ça,
ou un
effectivement.
B.
Donc on perd la formation visuelle de la lettre qu'on faisait en écrivant. D'où une perte, je pense, cognitive. C'est un bien grand mot, mais oui, il y a une perte au niveau des fonctions cérébrales quand on agit pour écrire, lorsqu'il n'y a plus cette interaction avec la forme, le son et le geste du mouvement mémorisé, ce mouvement qui anime la forme.
Intéressant. Néla, alors je sais que vous n'êtes pas neurologue, mais quand même, dans votre livre, vous racontez presque, finalement, je vais peut-être un peu loin, qu'il y a presque un cerveau dans la main. Enfin, on a l'impression qu'il y a un petit peu ça, quand même, dans ce que vous racontez, parfois.
Oui, j'aime beaucoup les métaphores. Je dis que la main pense.
C'est ça.
Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un cerveau, mais j'adore votre image que j'utiliserai peut-être un jour. Mais c'est le prolongement. C'est le prolongement de la pensée. Voyez-vous, c'est...
Ce n'est pas juste un outil, quoi. C'est pas juste un clavier.
Non,
c'est pas...
Il y a
autre chose.
Il y a autre chose. Il y a, vous parliez donc de ce temps que ça prend. Il y a une aération qui se fait. Lorsqu'on écrit, on retire la main, on la repose. Alors, vous allez me dire, sur le clavier aussi, mais c'est la même gestualité sur le clavier. Alors qu'avec un crayon ou un bic, on peut aussi faire ce que Winnicott appelait des squiggles. C'est un petit gribouillage. Vous pouvez gribouiller sur la feuille.
Ouais.
Et parfois, du gribouillage va sortir un mot. Et de là, ça continue et ça continue. Et si on remonte à il y a très longtemps, si on prend l'œuvre de Léonard de Vinci dans la chapelle Sixtine, il y a plusieurs fresques, et la fresque, là, une des plus importantes, on voit Dieu, entre guillemets, qui tend la main et crée Adam, n'est-ce pas, en pointant
le doigt.
Et Adam pointe le doigt, il ne se touche pas. Ça a été très galvaudé comme image, n'est-ce pas. Mais qu'est-ce qu'il est en train de lui transmettre, à part qu'il lui a donné vie, bien évidemment. Il lui donne aussi, ça c'est moi qui extrapole, le pouvoir de la création. Je te crée avec cette main, c'est ce prolongement, lui tend ce prolongement, et tu vas pouvoir créer. Rodin, et entre autres, je le cite dans le livre, mais il y en a d'autres, où on voit des mains qui sortent de la glaise.
Ouais.
Cette notion de sortir du chaos, donc pouvoir mettre de l'ordre à partir du chaos, de la glaise, de cette création, c'est la création passe par la main. Que ce soit l'agriculteur, tout passe par la création de la main qui serait donc la terminaison de ce cerveau.
Alors juste avant que nous nous séparions à nouveau quelques instants en compagnie de Jean Ferry Rebelle, Florence de Montesquieu, j'aimerais bien qu'on évoque quelques pistes de conseils pour les parents qui nous écoutent ce matin, qui sont un petit peu désemparés, voire complètement devant l'écriture affreuse de leurs enfants, qui n'aiment pas écrire, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui ont mal quand ils écrivent, qui préfèrent les ordinateurs et les tablettes de maman et de papa, etc. etc. Est-ce que vous m'avez presque donné une piste, une suggestion, avec le fameux concept japonais d'écrire dans l'air? Moi, ça me plaît bien. Peut-être que j'apprendrai à ma fille à 2 ans, peut-être, à écrire dans l'air des lettres ou des formes. Ça, c'est intéressant. À la maison, qu'est-ce qui peut se faire quand vraiment il y a un souci d'apprentissage, de lecture, d'écriture, dû effectivement à la grosse présence des écrans?
Alors moi, je dirais la première chose, moi c'est ce dont je m'aperçois en consultation, c'est que nos enfants, moi les enfants que je reçois, ne voient plus leurs parents écrire.
Oh, c'est vrai.
Et écrire à la main. Et quand c'est une question que je pose souvent, et en fait, alors oui, ils remplissent les carnets de correspondance, mais c'est quasiment
maigrichon.
Voilà, maigrichon. Et en fait, il y a plus d'écriture, il y a plus d'écriture manuelle dans les maisons.
Donc bah, ça, sauf le philofax, c'est né là.
Voilà. Et puis chez quelques autres dinosaures.
Ah,
voilà. Mais nos jeunes enfants, c'est un peu comme un enfant qui voit un grand lecteur, il rentre plus facilement dans la lecture. Ouais. Et c'est une autre question que je pose quand je reçois les enfants, je leur demande régulièrement pour eux, à quoi ça sert d'écrire, à quoi ça sert d'apprendre à écrire. Et en fait, quand vous posez cette question, on est assez, je suis toujours très surprise par la pauvreté des réponses.
C'est-à-dire ?
Ça ne sert à rien. Ça sert à écrire des cartes postales. Et en fait, on part vite sur un registre de plaintes. C'est long, c'est fatigant, c'est ennuyant. Je mets des guillemets à ennuyant. Ouais. Voilà, on part vite là-dessus et il n'y a plus aucun sens à l'activité. Et donc, c'est peut-être ce premier conseil que je pourrais donner, c'est de redonner du sens à ce que peut apporter...
C'est à oublier qui est en train de devenir l'écriture, en fait.
Vous pouvez aussi poser la question à un adulte qui vous dira aussi qu'il n'aime pas écrire, qu'il n'écrit plus. C'est pas juste les enfants, aujourd'hui. C'est ça. Et on se disait tout à l'heure que les gens n'aiment pas leur écriture. Plus de 55% des gens qui sont interrogés n'aiment pas leur écriture. Et n'écrivent pas. Alors, quand on vous leur posait la question, si demain, on n'apprenait plus les enfants à écrire en classe, alors là, ils ne sont pas d'accord. Ah non, 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 il faut écrire, c'est important.
Mais ils ne savent pas pourquoi, en fait.
Exactement. Mais d'où l'importance, quand même, de cette histoire. Ça fait partie de l'histoire de l'être humain, d'écrire, de laisser une trace.
Mais oui.
Et je rebondis, tout à l'heure, vous parliez, Neila, sur la Bibliothèque nationale de France, qui avait fait, en 2019, une exposition, c'est dans les manuscrits de l'extrême. Mmh. Vous en parliez bien, parce que je note sur votre livre, aujourd'hui, comme hier, l'acte d'écrire est un moyen de laisser sa marque. Vous parlez de marque, on parle de trace, on parle d'empreinte. Effectivement, dans cette exposition-là, vous aviez des futurs déportés, des enfants qui écrivaient sur des papiers. Vous aviez Marie-Antoinette emprisonnée qui écrivait sa dernière missive à ses enfants, qui était exécutée le lendemain. Vous aviez dans les locaux de la Gestapo une personne qui a écrit sur une chaise en bois pour laisser son empreinte. À la Bastille, vous aviez un prisonnier qui écrivait avec son sang sur une chemise. C'est très important aujourd'hui de pouvoir écrire. Un de mes fils me disait, bon, écrire aujourd'hui, effectivement, je ne fais pas, mais demain, si on n'apprend pas, comment on fait si Internet, l'informatique se plante ? Il faut vraiment pouvoir avoir cet acte graphomoteur, mais aussi de penser qui puisse nous permettre de nous exprimer, que ce soit sur un mur, sur une chaise, en cas d'urgence ou autre. Mais ça fait partie quand même de l'humain. L'écriture. Moi, je suis graphologue, donc je suis très attachée aussi à l'écriture manuscrite, mais je défends aussi quand même cet acte qui est quand même important, qui est quand même le miroir de la personnalité, l'écriture.
Ça tombe bien, je ne me souvenais plus de ce que j'allais vous demander, Neila, mais ça tombe bien, puisque Jean Ferry, Rebelle, revient à mon secours immédiatement avec les éléments. Partie 7, on se retrouve juste après.
Radio Notre-Dame. Thank you.
retour dans ce studio en train de parler des vertus de l'écriture manuscrite. Pourquoi est-il si important d'apprendre à écrire à la main? Nous nous posons la question en compagnie de nos trois experts, si je puis dire, ce matin. Florence de Montesquieu Guégrafo, thérapeute très éducatrice de l'écriture, qui exerce à Paris, qui est chargée d'enseignement au Centre de formation universitaire en orthophonie de Poitiers et au sein de l'association Graphidis, qui forme au métier de graphothérapeute, qui a coécrit un ouvrage spécialisé, professionnel, sur le sujet « La rééducation de l'écriture de l'enfant et de l'adolescent, pratique de la graphothérapie chez Elsevier Masson ». Emmanuel Rivoire, graphothérapeute, s'attache avant tout à restaurer justement le plaisir d'écrire, la communication, la confiance en soi. Vous qui intervenez avec dans le domaine de l'enseignement, en lien avec l'enseignement, avec décidément, à chaque fois j'ai du mal à vous décrire, vous.
Parce qu'en fait, je suis à la fois graphologue, graphothérapeute, donc je suis un petit peu sur tous les fronts.
C'est ça, vous êtes en amour, en aval, en tout cas, vous intervenez effectivement auprès d'adultes particuliers, voilà. Florence de Montesquieu, Nella Chidiac, qui est docteur en psychopathologie, psychologue à Sainte-Anne à Paris. Vous avez créé donc des ateliers d'écriture thérapeutique. J'étais en train de vous poser la question du pourquoi. Vous êtes lancé là-dedans et vous étiez en train de me répondre, mais on saura ça dans un ouvrage qui paraîtra bientôt. Voilà, on n'en saura pas plus aujourd'hui. Je pense qu'il faut laisser le suspense planer. Les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots chez Odile Jacob. Un ouvrage à découvrir dès maintenant dans les bonnes librairies, évidemment. Alors, vous enseignez dans différentes universités à l'étranger et en France autour de l'écriture par rapport au traumatisme. Hein, quels sont les bienfaits, justement? J'allais vous adresser cette question, Nella Chidiac, autour du côté, vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure, du côté vital et du côté authentique. Parce que c'est vrai que, finalement, il y a un côté, une fois de plus, de filtre, pour reprendre le vocabulaire de nos amis influenceurs, influenceuses, sur YouTube et compagnie. Là, il n'y a pas de... On ne peut pas se cacher, au fond, derrière l'écriture, à la main. Et ça, on n'aime peut-être pas forcément, dès le départ, étant donné dans une société où tout doit être bien lisse, bien parfait, bien pas authentique du tout, en fait. Et là, il y a quelque chose, comme le rappelait tout à l'heure Emmanuel Rivoire, quelque chose de parfois de vital,
spontané.
En tout cas, de spontané, d'authentique, de spontané, aussi, dans les bienfaits de l'apprentissage de l'écriture à la main.
Alors, donc j'ai fondé les ateliers d'écriture à Sainte-Anne en 1997. Je suis partie de Sainte-Anne en 2010 et je continue donc l'écriture depuis 1997 comme outil thérapeutique. Aucun patient ne m'a dit « mon écriture me dérange ».
Ça, c'est intéressant.
Voilà, mais je vais vous dire ce qui les dérange. Et là, on rentre encore dans quelque chose de l'ordre de la scolarité qui peut inhiber malheureusement cette pensée. Parce que finalement, écrire, c'est penser. Prendre le temps d'écrire, c'est quoi? Pourquoi je favorise ce temps d'écriture? Parce qu'il y a la notion de posture du corps, il y a la notion de la sensualité sur la page, qui permet une élaboration de la pensée beaucoup plus grande que si on tape sur un ordinateur. En revanche, ce que les patients, ce dont ils ont peur, c'est que leur production ne soit pas correct. Ils ont peur des fautes, ils ont peur que ce ne soit pas beau, ils ont peur que ce ne soit pas assez. Donc, j'ai plusieurs règles de mon atelier d'écriture. Je vais vous donner la première, qui est la confidentialité, bien évidemment. Et la deuxième est la suivante. La qualité ne compte pas, la quantité ne compte pas. C'est un atelier à visée thérapeutique et non pas un atelier à visée littéraire. Donc la production ne compte pas. À partir du moment où ils intègrent cela, et ça prend du temps, parce qu'ils ont toujours peur que ce soit pas... Est-ce que j'ai répondu correctement à la consigne? Est-ce que c'est bien?
Réflexes primaires qui reviennent.
Des réflexes de l'école finalement très inhibitrices, pour ne pas dire presque angoissantes, voire castratrices.
Peut-être qu'on l'a
pour
tous,
certains.
Un peu.
Et dès que je répète cela. Mais ils ne se sont jamais inquiétés quant à l'écriture, puisque c'est eux qui vont lire. Voilà.
Effectivement, Florence de Montesquieu, par rapport justement à c'est intéressant, au jugement, on peut ressentir ça. J'imagine que ça, effectivement, motive des personnes.
Complètement. C'est un vrai sujet et c'est une vraie douleur pour nombre d'enfants. C'est pareil, c'est une question que je pose souvent. Quels sont les mots que tu entends quand on parle de ton écriture? Et on a souvent alors des classiques, tu écris comme un cochon, c'est illisible. lisible. On a souvent, bon là je suis très soft, oui, mais on a souvent des choses qui peuvent être vécues très douloureusement, parce qu'en fait c'est très transparent. Dire à un enfant tu écris comme un cochon, c'est comme si on lui disait tu es un cochon. C'est exactement la même chose, c'est oui, ressenti de façon très violente par l'enfant. Donc on parlait de conseils tout à l'heure, ça alors, pourrait être un deuxième conseil. C'est-à-dire que quand on regarde l'écriture de son enfant, il faut essayer d'en parler de façon factuelle et non dans, de façon esthétique.
C'est-à-dire, vous avez un exemple en tête ?
Oui, par exemple, bon, un enfant qui est illisible pour X raisons, oui, on va lui dire, regarde là, ton A n'est pas très bien fermé, on peut le confondre avec un U, par exemple, mais vraiment des choses précises, d'accord, factuelles, et pas lui dire une information vague, c'est moche, c'est
pas... pas de jugement...
général, qui va pas servir à l'enfant, en plus, qui ne va pas le guider, mais qui va juste le stigmatiser. Et ça, c'est un échange que j'ai souvent aussi avec des enseignants, dans la façon dont ils font des retours sur l'écriture de leurs élèves, qu'ils fassent attention justement à donner des conseils précis, et pas à refaire, ou tu ne t'es pas appliqué, ou des choses comme ça. Mais que l'enfant puisse comprendre pourquoi son écriture n'est pas réellement fonctionnelle.
Emmanuel Rivoire, autre conseil, ou vous partagez également
ce genre ? Oui, je partage totalement. Effectivement, c'est de dire on va rendre l'écriture un peu plus régulière, lisible, enlever les mauvaises formes, rétablir la tenue de ligne, ouais, les proportions. Et voilà. Et effectivement, de surtout pas... Et puis de mettre en confiance l'enfant quand on est seul avec lui. T'inquiète pas, ton écriture, ça va aller.
Ça va s'améliorer.
Ça va s'améliorer, elle n'est pas laide, tout va bien, on va travailler ensemble. Et puis, ça va aller très bien.
Il faut consulter à quel moment de la gravité du problème.
Quand on a des remarques, tout à fait. Pas forcément des parents, mais les remarques de l'école, de l'orthophoniste. Des fois, voilà, c'est des remarques. Applique-toi, va voir. Alors attention, moi, une fois, j'ai eu une jeune femme, enfin une jeune fille de 16 ans qui est arrivée complètement inhibée, découragée avec sa mère, 16 ans, donc on vient faire un bilan graphomoteur, son écriture est illisible selon son prof d'histoire. Très bien, donc je me prépare à faire le bilan, je le demande toujours des écrits récents, je vois ses écrits, mais c'était tout à fait correct. Donc là, j'ai tout de suite dit à la maman, écoutez, pour moi, tout va bien. Effectivement, il y a des petites choses à revoir qui font que, bon, les mots, il y a parfois des trous dans les mots, donc on ne sait pas trop comment, où il commence, où il finit. Il y a des petites choses, des petites attaques qu'elle faisait encore devant les lettres rondes, ces fameux traits initiaux que certains font qui entachent un peu la lisibilité. Je dis, mais tout va bien. Moi, je la lis correctement. Alors, peut-être que ce prof, ce jour-là, était fatigué d'avoir plein d'écritures qui n'allaient pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle s'est pris une remarque qui l'a, mais complètement, elle arrivait en tremblant. Je dis, écoute, on va travailler ensemble un petit peu de façon à rétablir un petit peu l'équilibre de ton écriture, mais en aucun cas elle est illisible. Je ne suis pas d'accord, tout va bien. Et déjà, elle était contente d'avoir un autre regard. On a quand même rectifié des petites choses, mais il n'y avait pas un gros atelier à faire. Parfois, il n'y a rien. Moi, j'ai une adulte qui est venue, c'est une jeune infirmière. Elle m'appelle, elle me dit, je déteste mon écriture, c'est fort. En tant que graphologue, graphothérapeute, elle vient me voir. Très bien, donc moi je leur demande de m'écrire déjà sur une page blanche, de façon à avoir un regard neutre quand même sur l'écriture. Je reçois cette écriture, pour moi tout allait bien. C'était une écriture effectivement simple, mais elle était bien. Elle arrive, elle me dit oui, ça va pas, elle a fait trop enfantine, etc. Bon, je dis mais je ne comprenais pas comment je pouvais l'aider, pour moi elle était lisible. Donc je lui montre un classeur avec une quarantaine d'écritures que je regarde, sans montrer bien sûr l'identité des scripteurs, avec des écritures différentes, et là elle regarde les écritures, oh, les gens ils écrivent mal. Je dis, mais oui, mais les gens, ils écrivent différemment. Chacun a sa propre écriture. Et en voyant ces classeurs, elle dit, mais non, mais...
Elle relativisait, quoi.
Voilà. Et puis moi, je suis rentrée un petit peu après dans son écriture en disant, voilà, vous avez une écriture un peu ronde, en courbe, claire. Oui, vous avez quelques items enfantins, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un désir de clarté. Vous êtes dans le relationnel. Votre trait est chaleureux, lumineux. Vous êtes dans l'empathie, dans l'écoute. Donc voilà, en lui faisant même une petite analyse graphologique de sa personnalité, on rentrait quand même dans une personne qui était tout à fait dans l'écoute, l'empathie, la maîtrise, l'organisation, le désir d'appartenance. Et en parlant de sa personnalité par rapport à son métier, je lui dis, on va pas mettre de l'angle dans votre courbe. Elle dit, mais non, non, non. Puis en fait, les autres écrivent très mal. Vous voyez,
on se détend, chère mademoiselle.
On se détend.
Néla, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, pardon, à mon Florence, vous souhaitez...
Je voulais juste dire, compléter, en fait, ce qu'on ne recherche pas, c'est pas forcément quelque chose d'esthétique. On cherche à faire de l'écriture un outil fonctionnel. Et un outil fonctionnel, on pourrait avoir des tas d'écritures d'ingénieurs qui ne sont pas esthétiques, mais qui sont fonctionnelles. Alors, c'est un peu schématique, mais il y a à l'inverse des belles écritures, entre guillemets, bien rondes, mais qui ne sont pas lisibles.
Et quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Merci Florence pour ce petit détail. L'émission file, vous le savez. Néla, il y a quand même quelque chose que j'aimerais bien... une question que je voulais vous poser. Alors, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais on a l'impression que quand on tape sur un clavier, tout à coup, quand on revient à l'écriture, et même quand on reste sur un ordinateur, on oublie des orthographes, mais qui paraissent basiques. Qu'est-ce qui... Pourquoi ?
Il y a, on le soulignait tout à l'heure, la mémoire visuelle. Il y a quelque chose qui fait que la vision est beaucoup plus captée, neuronalement parlant, lorsque le geste l'accompagne. Et le geste va faire, par exemple, le A.
On revient
tourner. Exactement. Donc, d'un E-S ou un A-I-E-N-T qui a écrit, était écrit à la main, c'est un autre tracé, une autre posture du corps. Et aussi, c'est juste sur l'écran. Et puis, il y a quelque chose aussi qu'on oublie de signaler, pour lequel je trouve qu'il y a une certaine importance, c'est que quand on écrit à la main, on est la pensée qui est au cerveau, passe vers l'horizontale. L'œil se pose sur l'horizontale. Donc, il y a un chemin qui se fait, qui est différent du chemin face à la verticalité de l'écran. Donc, il y a quelque chose entre le vertical et l'horizontal, que je n'ai pas encore assez approfondi, mais qui, pour moi, a un sens et qui devrait être approfondi, pas par moi, mais je laisse cela aux soins des chercheurs.
Au neuro et au...
Oui, je vois une très grande différence qui se fait. Et au niveau mémoire, comme vous dites, si bien à l'écriture, on voit autre chose quand ça se fait à la main, au niveau orthographique.
On pourrait compléter en disant aussi que nos jeunes enfants ont aussi une pratique de l'écriture qui est moins importante. Et donc, ils engramment moins. Il y a moins de répétitions. Il y a moins de... Et puis, il y a beaucoup de... On s'en aperçoit quand on consulte les cahiers de classe. On a beaucoup d'exercices à trous où, en fait, le mot n'est pas en contexte. Et donc, on a un manque de pratique. Et puis, on peut aussi avoir un manque d'automatisation du geste. Dû à ce défaut d'exercice.
Et un manque de pratique en classe aussi. Les enseignants font beaucoup moins.
C'est un muscle, l'écriture.
Oui, et puis les enseignants
et l'orthographe aussi.
Font moins d'écriture maintenant en classe. Il y a beaucoup moins d'écriture. Moi, je reçois des enseignants cette semaine, une instit, qui me demande comment apprendre l'écriture à ses CP.
Non, mais c'est hallucinant.
Il n'y a pas de formation.
Pardonnez-moi,
elles ne sont pas formées sur l'écriture. Donc, c'est axé vraiment sur la lecture, les maths, l'écriture, le geste graphique n'est pas.
Il y a du boulot. Il y a du boulot. On est là.
Vous disiez muscle, la main à elle seule, 29 os.
J'ai même pas dit.
40 muscles.
J'ai appris ça dans votre bouquin.
Et la part dans le cerveau est très importante aussi. Oui. Voilà.
La part dans le cerveau est très importante.
En fait, il y a un dessin, je ne sais plus comment il s'appelle, mais sur Internet, un dessin qui circule et qui montre la part des différents organes dans le fonctionnement du cerveau. Et la main est complètement disproportionnée parce qu'elle occupe une très très grande part des ressources du cerveau.
Oui. Eh bien, on terminera sur cette note passionnante. Merci infiniment. Florence de Montesquieu, Néla Chidiac et votre livre Les bienfaits d'écriture, les bienfaits des mots aux éditions Odile Jacob et Emmanuel Rivoire. Nos deux thérapeutes, graphologues pour Emmanuel Rivoire et Florence de Montesquieu qui est à Paris. Merci infiniment à vous trois pour cet hommage finalement à l'écriture et à vos stylos et à vos philofax.
Oui.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.